Extra Time, Sarah Méran sur Nutri Radio.
Le rendez-vous qui va bien, chaque jeudi entre 11h et midi, Sarah Méran, Extra Time. Quel est le nom de cette émission Extra Time? Et on joue les prolongations en pleine forme. Vous savez, quand une partie de football notamment, voilà, on joue les prolongations, si on a des crampes, si on ne peut plus courir, ça ne sert à rien de les jouer. Bah, c'est à peu près pareil avec la vieillesse. On vieillit et il faut être en bonne santé pour pouvoir jouir de cet état, car la vieillesse est une victoire, n'est-ce pas Sarah? Bonjour.
Génial. Très beau résumé. Oui, bonjour Fabrice.
Ah oui.
Comment ça va?
Ouais, ça va super. Moi, je vous écoute chaque jeudi, donc j'ai la chance de vous avoir. Donc après, je peux prendre directement de bonnes décisions pour... voilà, je suis dans le Titanic. Non, mais c'est vrai qu'on dit souvent la vieillesse est un naufrage. Sarah, c'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus.
Eh ben moi, plus je vieillis, plus je me rends compte que j'aimerais pas retourner en arrière, puisque tout ce que j'ai appris, toutes les leçons de vie qu'on a eues, eh ben je trouve que c'est une grande richesse. Et quand on est jeune, on les a pas, donc je les regrette pas. Bah, tant pis pour les autres désagréments physiques.
Alors, mais ça veut dire que si on avait une, vous aviez une petite fée là qui vous dit, hop, petite baguette magique, tu reviens avec l'expérience que tu as aujourd'hui, boum, 20 ans ou 30 ans en arrière, vous dites non?
Alors, si je peux garder la même expérience et la même évolution physique et psychique, je dirais oui, si je veux bien.
Mais c'est quoi, on ferait d'autres erreurs? C'est ça qui est fou. C'est qu'on ferait encore d'autres trucs, on se dirait, mais non, comme quoi on n'a pas assez, comme disaient nos grands-parents, on n'a pas assez d'une vie pour faire tout ce qu'on veut. Donc on fait ce
exactement.
Qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Bon, aujourd'hui, après avoir parlé des champignons, enfin des champignons, des plantes
des
adaptogènes,
plantes.
C'est marrant, hein, plantes adaptogènes, je pense directement à champignons. Bon, ce qui n'est pas forcément faux, il y a des champignons aussi adaptogènes.
Il y a des champignons adaptogènes, ouais, des ouais. Champignons ont des propriétés hyper intéressantes.
Eh oui, donc c'est pas le sujet
qu'on pourra développer une autre fois.
Eh ben avec plaisir. Voilà, c'est, hop, ça y est, c'est fait. Non, là on va parler du jeûne intermittent. Alors on en a déjà parlé beaucoup, pour tout vous dire, pas tous les jours, mais c'est bien à date de revenir avec des visions aussi différentes. Qu'est-ce que vous en pensez vous déjà du jeûne intermittent?
Ah, moi je trouve ça génial.
Bien. Bon,
comme ça. J'aime beaucoup le jeûne intermittent parce que personnellement je me vois pas faire un jeûne. Je fais partie de ces gens qui ont un rythme de dingue et que quand ils sont en vacances, ils n'ont pas envie de du coup se restreindre pendant ces périodes-là. Par contre, le jeûne intermittent permet d'optimiser sa santé tout en ayant une hygiène de vie classique. Moi, je m'en sers notamment beaucoup quand je suis épuisée et que je dois assurer justement une conférence. Hop, un petit coup de jeûne intermittent et le lendemain, une patate d'enfer avec un cerveau qui tourne à fond les ballons.
Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand vous êtes épuisé, on pourrait se dire « je suis épuisé, je mange ». Vous, vous êtes épuisé et vous dites « tiens, petit jeûne intermittent » et le lendemain, pleine forme.
Exactement. Parce que du coup, le fait de ne pas manger, notamment le soir après une grosse journée de boulot, eh ben, n'a pas été utilisé pour digérer, puisque la digestion consomme énormément d'énergie. Eh ben, cette énergie va être utilisée pour rénover mes tissus, pour recharger mes batteries. Et donc, du coup, je vais me réveiller plus en forme le lendemain, je dirais moins dans le brouillard, moins encrassé et avec une fatigue mentale beaucoup moins importante.
On va marquer une première pause, on va revenir dans un instant avec les différentes méthodes de jeûne intermittent. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, vous allez nous dire celles que vous recommandez, vous, celles que vous avez adoptées, comment ça peut affecter notre organisme. C'est juste après ceci sur Nutri Radio.
Extra Time, Sarah Méran sur Nutri Radio.
Et avec Sarah Méran aujourd'hui pour parler du jeûne intermittent, avec déjà cette première information, quand vous vous sentez fatigué. En tout cas, c'est ce que Sarah fait, donc je ne vais pas dire quand vous. Je vais dire voilà, Sarah, quand elle se sent fatiguée, épuisée, eh bien elle va jeûner. Et le lendemain, elle a la patate. Donc, ça, c'est très individuel, bien évidemment. Mais un partage d'expérience toujours utile. Est-ce qu'on peut revenir sur les différentes méthodes justement de jeûne intermittent? Il y en a qui ne mangent pas la journée, il y en a qui ne mangent pas le matin.
Alors en fait, il y a différentes façons, il y a différents modes de jeûne intermittent. Soit la méthode 16-8, c'est-à-dire 16 heures de repos digestif et 8 heures où on peut manger. Soit la méthode 5-2, c'est-à-dire qu'on mange 5 jours dans la semaine et pendant 2 jours, on mange à moins entre 500 et 600 calories par jour. Soit un jour de jeûne, soit et alterner avec un jour où on mange normalement, soit des jeûnes complets 2-3 fois par semaine, tout dépend.
D'accord. Bon, vous, c'est laquelle méthode que vous avez adoptée?
La 16-8.
La 16-8, bah oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est ce qui permet quand même de manger chaque jour.
Ouais, ce qui permet de manger chaque jour. Et personnellement, je trouve que, en fait, le rythme aujourd'hui de notre alimentation est guidé par la structure de la société et pas forcément parce que par nos besoins spécifiques. Et pendant la période de confinement, j'en ai pas mal discuté avec des patients et on s'est rendu compte que finalement, pour un certain nombre, finalement, le rythme physiologique ou en tous les cas de l'alimentation ou l'appétit venin, etc., ça serait plutôt de faire un petit déj vers 10 heures et ensuite un déjeuner-dîner vers 16 heures. Et ça fait du coup que deux repas par jour avec une grande période de jeûne entre le dernier repas et le premier du lendemain, et ce qui correspond finalement à un jeûne intermittent régulier.
Oui, c'est vrai qu'on mange, dans les habitudes, c'est trois repas par jour, plus le goûter, la collation, hein, très important pour certains, et on prend l'habitude des jeunes, en fait.
Tout à fait. Et en fait, on est chasseur-cueilleur à la base, et notre organisme a besoin d'avoir des périodes où il n'a pas tout le temps de la nourriture. Et en fait, finalement, le fait de lui donner toujours à manger plus ou moins à heure fixe, fait que ses capacités d'adaptation au manque ou faire des efforts pour trouver des solutions, il les fait plus puisqu'il sait que régulièrement il va avoir de la nourriture. Donc pourquoi aller pomper dans nos réserves? Pourquoi aller nettoyer nos cellules qui s'encrassent? Puisque dans le jeûne intermittent, il y a ce qu'on appelle un processus d'autophagie, c'est-à-dire le corps va aller pomper les déchets et manger les déchets de nos cellules pour pouvoir rénover. Il y a une espèce de recyclage de matières premières.
Il faut qu'on le fasse, mais c'est dur. Hein. Franchement, tenir 16 heures sans manger, il faut quand même aussi être préparé psychologiquement et surtout être dans les conditions pour le faire. On ne peut pas lancer un jeûne intermittent si on a une grosse journée de travail, si on travaille sous le soleil, enfin j'en sais rien, mais on ne peut pas lancer ça comme ça.
Ça dépend en fait. Déjà. En fait, ce qui est très important dans le jeûne intermittent et dans tous les jeûnes, c'est que ce soit fait sans stress. Lorsque j'ai participé à l'écriture du livre « Ma Bible du jeûne », justement, quand on a étudié les différentes études à travers l'histoire, etc., sur le jeûne, ce qui est très important, c'est que ce soit sans stress et que ce soit la volonté du patient. Ceux qui ont beaucoup travaillé sur le jeûne, c'est les Russes. Et du coup, ils se sont rendus compte que ça marchait sur les dépressions, sur les polyarthrites, etc., sur l'asthme. Donc, quand un patient avait un patient asthmatique, pof, il l'inscrivait dans une cure de jeûne. Et pour le soigner. C'était pratique, il ne mangeait pas, ça ne coûtait pas cher, et puis en plus, il n'y avait pas de médicaments à donner. Bon, sauf que ça ne marchait pas du tout, puisque le patient était obligé d'y aller. Par contre, les patients qui s'inscrivaient spontanément dans ces cures avaient d'excellents résultats sur les polyarthrites, sur l'asthme, etc. Donc vraiment, la notion de volonté et de choix est essentielle pour qu'un jeûne intermittent ou un jeûne tout court marche.
Bien, donc on le fait parce qu'on a vraiment envie, pas pour faire un effet de mode ou pour juste dire, je vais maigrir. Il faut qu'on ait philosophiquement, il faut qu'on soit prêt et qu'on soit d'accord. Est-ce qu'il y a quels sont l'impact sur les paramètres métaboliques? La glycémie, la sensibilité à l'insuline?
Exactement, ça améliore la glycémie, ça joue sur la sensibilité à l'insuline, ça diminue le stress oxydant, ça diminue l'inflammation, ça diminue les pathologies d'encrassage, notamment par le processus d'autophagie. Globalement, on a une diminution de la quantité de calories qu'on mange du coup par semaine, donc on a un effet de restriction calorique. Donc, grâce à cette restriction calorique, on va stimuler notamment ces modulateurs épigénétiques que sont les sirtuines, qui va permettre de travailler sur tout ce qui est optimisation de la longévité et de la qualité de vie. Et surtout, le jeûne intermittent a un effet extrêmement bénéfique sur la composition du microbiote.
Ah, c'est-à-dire ?
Au fait, le jeûne intermittent, déjà le fait que les bactéries intestinales ont moins souvent à manger, du coup, les bactéries de mauvaise qualité, entre guillemets, auront moins de nourriture à disposition et vont être du coup moins costauds. Et du coup, les plus sympas vont reprendre la place. On a vu qu'il y avait une amélioration du coup de la diversité du microbiote, beaucoup plus de bactéries différentes. Il y avait une amélioration du rapport firmicutes sur bactéroïdites qui joue sur l'inflammation et le risque même obésogène du microbiote. Et on a vu que ça optimisait notamment Akkermansia mucinifila, avec un effet bénéfique sur la composition du global du microbiote, puisqu'Akkermansia joue, entre guillemets, sur le terreau d'implantation des différentes souches bactériennes.
Merci Sarah Méran. On marque une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
Extra Time, Sarah Méran sur Nutri Radio.
Dernière partie de cette émission consacrée aujourd'hui au jeûne intermittent. C'est celui qui vous permet, mesdames et messieurs, de récupérer, d'avoir, on a vu, un impact sur votre microbiote. De toute façon, sur la bonne. Il n'y a pas d'effet négatif d'ailleurs sur le jeûne intermittent, parce qu'on parle tout le temps de ses bénéfices. Il y a plein de qualités, plein de vertus, mais est-ce qu'il y aurait des contre-indications?
Alors, les contre-indications, il y a certains médicaments qui contre-indiquent. Hein, si on est diabétique et qu'on prend régulièrement un traitement anti-diabétique ou de l'insuline et d'un seul coup, on se met à faire un jeûne intermittent sans avoir rééquilibré son traitement, on risque de se retrouver notamment en hypoglycémie, ce qui peut être assez dangereux pour un patient. Je dirais, est-ce qu'il y a des contre-indications? À part ça, les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, ce qui peut nourrir un trouble du comportement alimentaire. Mais sinon, à part ça, non, je ne vois pas d'autres effets négatifs.
Alors,
à part qu'il faut que ce soit vraiment fait, que le patient en ait vraiment envie, parce que sinon, ça va entraîner un rebond. C'est-à-dire, ceux qui le font parce qu'ils sont forcés, ça va entraîner une augmentation de l'appétit après le jeûne. Et donc, du coup, au contraire, ils vont grossir au lieu de plutôt optimiser leur masse maigre. Optimiser, donc, ça part, enfin, un, deux, trois, je vais y arriver. Le jeûne intermittent permet même d'optimiser la synthèse de la masse musculaire, c'est-à-dire d'optimiser la masse maigre et de diminuer la masse grasse. Par contre, s'il le fait en situation de stress, on perd complètement cet avantage. Et au contraire, ça peut nous faire grassir.
Très bien. Est-ce que il y a, puisqu'on est dans l'émission qui s'appelle Extra Time, quel est l'impact du jeûne sur la longévité? Comment il aide à ralentir le vieillissement biologique? Est-ce qu'il le fait déjà? Et est-ce qu'on peut observer des résultats dans les études animales ou humaines qui ont été faites?
Ouais, on voit déjà des résultats dans les différentes études sur l'optimisation de la longévité, sur l'impact des maladies neurodégénératives. Alors, c'est difficile à mettre en place à l'échelle humaine, puisque quand même on vit assez longtemps. Et donc, les études ont été plutôt faites sur des souris ou des nématodes. Et du coup, chez l'humain, on a par contre montré qu'il y avait une diminution des lésions de l'ADN, diminution des lésions du stress oxydant, une diminution de l'inflammation générale, notamment de l'inflammation de bas grade ou de ce qu'on appelle aussi de l'inflammaging, etc. Et c'est par ce biais-là qu'on évalue le potentiel, je dirais, longévité. Et on sait que le jeûne intermittent stimule les sirtuines qui interviennent également dans la longévité, en potentialisant notamment la qualité des mitochondries, leur efficacité, la préservation de notre capital génomique en protégeant notre ADN et en favorisant sa réparation, etc.
Est-ce que c'est important de répartir un peu ce qu'on va manger pendant ces périodes d'alimentation pour pouvoir maximiser les effets du jeûne? Est-ce qu'il y a des compléments aussi alimentaires peut-être à prendre, des plantes à favoriser?
Alors moi, ce qui est le plus difficile, je dirais, dans un jeûne intermittent, c'est que du coup, on fait moins de repas et c'est de garder un équilibre, c'est-à-dire avoir suffisamment de protéines, de glucides, de lipides, mais également de micronutriments. Ça veut dire qu'il faudra être, entre guillemets, un peu plus, précis dans la composition de nos repas. Puisque du coup, si on fait un jeûne intermittent en mangeant que le matin et je dirais le midi, si le matin on se fait pain, beurre, confiture et que le midi on se fait une grande salade composée, eh ben, du coup on risque d'être déficitaire en protéines, ce qui aura du coup un effet plutôt délétère. Pareil, il faudra être sûr d'avoir eu suffisamment d'acides gras et notamment d'acides gras essentiels comme dans l'huile de colza ou dans l'huile de lin, etc.
Est-ce qu'il y a des boissons? Parce que, quand on dit jeûne intermittent, on fait 16-8, mais pendant ces 16 heures, on ne boit pas non plus, rien?
Ah si, on peut boire pendant les 16 heures, on peut boire de l'eau, on peut boire des tisanes, mais par contre, on évite toute boisson excitante type café, thé, etc. Et on évite également les boissons qui contiennent des jus de fruits ou des choses comme ça, bien sûr, puisqu'il y a du fructose à l'intérieur. et donc du sucre, enfin un sucre qui va donc modifier, enfin du coup éviter, enfin 1, 2, 3, ne pas mettre notre organisme en jeûne intermittent et en repos digestif.
Ouais, je vais vous appeler 1, 2, 3 là, ça fait deux fois. Ok, les boissons riches en électrolytes, ça y a des sportifs qui prennent ça, est-ce que là c'est adapté ou pas?
Les électrolytes purs, oui, s'il n'y a pas associé des acides aminés branchés ou des glucides avec.
Qu'est-ce que ça veut dire? Les acides aminés branchés, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Les acides aminés branchés, c'est leucine, isoleucine, valine, etc. C'est des acides aminés branchés qui servent notamment, enfin des acides aminés qui servent notamment à tout ce qui est néoglucogénèse.
Oh là là, chaque fois que vous expliquez un mot, le suivant est encore plus compliqué. La néoglucogénèse.
Donc la néoglucogénèse, c'est comment l'organisme arrive à fabriquer du glucose à partir d'autres molécules comme le lactate, comme des acides aminés, etc.
Très bien, ben voilà, c'est clair. Vous voyez, mesdames, messieurs, en plus avec la petite coupure au milieu, là, on s'est régalé. Non, mais on a compris l'idée. Tiens, on peut revenir peut-être sur les effets du jeûne, sur les marqueurs de l'inflammation et le stress oxydatif.
Alors, oui. Donc déjà, en fait, ça joue sur les marqueurs de l'inflammation par différents mécanismes, en optimisant le microbiote, en agissant sur les sirtuines qui modulent le facteur de transcription NF-kappa B. Ça joue également au niveau du stress oxydant. Bah déjà, comme il y aura moins d'effets de digestion qui consomment énormément d'énergie, il y aura moins de production de radicaux libres. Donc déjà là, on va faire, je dirais, une économie d'apport en radicaux libres. Et en même temps, on sait que le jeûne intermittent va avoir un impact direct sur certains facteurs de transcription, comme le NRF2, qui va stimuler la synthèse de toutes les enzymes qui interviennent dans la lutte contre le stress oxydant.
Très bien. Le NF-kappa-B, peut-être une petite explication aussi?
Donc, NF-kappa-B, c'est un facteur de transcription qui permet la lecture de gènes qui jouent sur le déclenchement de l'inflammation, la régulation de l'inflammation et son intensité.
Bien. Bon, bah, écoutez, Sarah Méran, je crois que ça a été très clair. Très clair. Et est-ce qu'on peut adopter, tiens, dernière question, ce jeûne intermittent au long cours? Est-ce que ça peut être juste une manière de vivre qu'on peut faire toute l'année, indépendamment des saisons?
Oui, on peut le faire toute l'année. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Après, moi, j'aime bien le côté intermittent. Dans le côté intermittent, il y a le côté 16 heures de repos digestif, 8 heures on mange. Mais je trouve qu'il faut en permanence essayer de surprendre notre organisme. Donc, les gens qui seraient tout le temps en jeûne intermittent, je pense qu'ils perdraient peut-être une partie des bénéfices en ayant une routine. Et du coup, le fait de surprendre de temps en temps l'organisme en se faisant une semaine de vacances où ils vont manger un peu de tout et après se remettant en jeûne intermittent, ils pourront relancer une partie des bénéfices du jeûne intermittent.
Eh bien, merci beaucoup Sarah Méran. Et là, comme il est proche de midi, tout le monde a très faim. Donc, il n'y a pas de jeûne intermittent. C'est ce qui est dur.
Bon appétit.
Franchement, ce qui est dur aussi, c'est de. Voilà, il faut être prêt dans la tête, mais ça dépend de l'influence. Par exemple, vous êtes au bureau, il y a des collègues et ça commence à parler déjeuner. Tu viens déjeuner. Bon, bah, on y va. C'est aussi un moyen de se sociabiliser le déjeuner. Hein, on va pas rester seul dans son coin. Et puis aussi les odeurs. Quand ça commence à sentir bon, vous passez devant un resto ou deux, ou je sais pas, quelqu'un fait chauffer un plat, ça sent bon. Bon, là, on a l'eau qui vient à la bouche. Notre organisme nous demande à manger. Il faut répondre.
Ouais, mais c'est rarement quand même le midi qu'on casse le jeûne, enfin qu'on fait le jeûne intermittent. C'est plutôt soit le petit déj, soit le repas du soir.
Ah ben oui, mais le repas du soir, parlons-en, parce que quand on a une famille, hein, les enfants et des enfants, allez leur expliquer le jeûne intermittent, vous allez voir.
Oui, alors donc, du coup, c'est pour ça que je dis c'est soit celui du soir, soit celui du matin. Donc pour les couples qui justement dont les enfants sont partis, qui sont un peu plus âgés et qui du coup se disent on va plutôt faire un espèce de goûter dîner vers 16h. Mmh. Du coup, c'est possible.
Ouais, je suis en train de réfléchir à ce que vous dites. Donc c'est vrai que le soir non, mais le matin effectivement, ça peut être ça. OK, on peut faire le petit déjeuner à ses enfants sans être forcément tenté. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge, ça passe tout seul en fait.
Oui, et puis des fois le matin, on n'a pas faim.
Oui, non, c'est vrai. Bon, écoutez, merci beaucoup. Et alors, il y a aussi c'est les gens qui disent qu'il faut écouter son corps. Mais là, ils ont faim tout le temps, ils écoutent leur corps.
Alors oui, alors tout dépend qui c'est qu'ils écoutent. Est-ce qu'ils écoutent leur corps? Est-ce qu'ils écoutent le stress? Le fait de manger, ça permet aussi de lutter contre le stress. ça stimule la dopamine qui fait qu'on se sente bien, voilà, ce qui stimule le circuit de la récompense. Est-ce que c'est les bactéries de l'intestin qui lui réclament à manger ou est-ce que c'est une candidose intestinale qui dit « donne-moi du sucre pour que je me développe ».
Ah, vous faites
qui
bien,
c'est
ça.
Qui parle quand on a tout le temps faim ?
Oui, c'est vrai, vous avez raison, ce fameux ver solitaire, là, connu sous le nom de ver solitaire, c'est un peu ça l'idée, non ?
Aussi, on peut avoir le ver solitaire, donc il peut y avoir différents paramètres qui peuvent aussi moduler notre appétit.
Vous pourrez refaire la petite bactérie là ?
Non, c'était un champignon.
Ah, vous pouvez refaire un petit champignon ?
Donne-moi du sucre pour que je me développe. Allez, allez, donne-moi du sucre.
Vous allez bientôt écrire un conte pour enfants, je le sens, je le sens. Merci beaucoup Sarah Méran. On va se retrouver jeudi prochain entre 11h et midi. Évidemment, d'ici là, cette émission elle sera dispo en podcast à partir de 18h. Vous pouvez vous l'écouter, vous la réécouter. N'hésitez pas à vous abonner aussi quand vous l'écoutez en podcast sur les plateformes et puis à la conseiller également. Au revoir Sarah.
Au revoir Fabrice, bon appétit.
C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous.
Extra Time, Sarah Méran sur Nutri Radio.